Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous et d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes réunis parce que nous croyons que le Seigneur est avec nous et que, à travers nos louanges et nos prières, nous sommes entendus, écoutés. Amen. Sinon, notre rassemblement serait vain si nos prières ne dépassent pas ce plafond. Si on n'a pas la foi que le Seigneur écoute les prières et exauce les prières. Mais nous le croyons. Amen. Je discutais avec un frère et il m'a dit, Gérald, il y a quelques personnes qui me posaient la question concernant la vision de l'Église. Je dis, est-ce que c'est la vision de l'Église ou c'est la vision du pasteur? Et je lui ai répondu, je n'ai pas changé de vision. Je ne suis pas prêt à changer aussi. La vision, j'ai partagé en venant, en tout cas, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que Jésus soit formé en nous, en toi, en moi, qu'il croisse et que je diminue. C'est ça la vision. En ce qui me concerne, je travaille pour ça. C'est ça la vision. La prédication, que ce soit l'enseignement, l'évangélisation, nous aidera à mieux connaître le Seigneur Jésus, pour mieux l'aimer et pour mieux le servir. Ce que nous cherchons à partager avec les enfants, c'est que les enfants connaissent le Seigneur Jésus, grandissent avec lui, ressemblent au Seigneur Jésus. Ce que nous voulons dans le cadre de notre travail, c'est que le monde connaisse le Seigneur Jésus à travers nos vies, à travers nos paroles. Voilà la vision. L'enseignement, la formation, tout ce qui doit être fait dans ce sens. Je disais, l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. Même si nous avons un projet de construction, d'extension, ça, ce n'est pas la vision, c'est un projet. C'est un projet. Mais les bâtiments, le temple, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est un témoignage vis-à-vis, parce que je disais, vous avez des bâtiments, vous avez des maisons chez vous. Vous recevez les gens. Je pense que la première chose que vous faites, c'est de nettoyer votre maison pour mieux accueillir les gens. C'est ce que nous faisons avec le groupe de ménage. Vis-à-vis des autorités, si nous avons des normes, et nous avons un témoignage. Et ça, ce n'est pas la vision. Notre vision, à travers toutes ces choses, c'est que Christ soit formé en nous, que jour après jour, il croisse et que nous diminuions. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu et à lire dans 2 Rois, chapitre 6 et verset 8. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, je désire te voir. Il y a un chant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, je désire te voir. C'est le titre ou le thème. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tenait avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivant, non pas une fois ni deux fois, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer le cœur de nous et pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On veut lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous ?» Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Il est question de la guerre. Il est question de la guerre entre le roi de Syrie et Israël. Israël, le peuple de Dieu. Et ces derniers temps, j'ai mentionné ce que nous lisons dans la parole de Dieu, mais ce que nous vivons en réalité. La Bible nous enseigne que nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en Christ, eh bien, nous avons des combats. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous sommes appelés aussi à prendre conscience que nous avons aussi les armes à notre disposition. Nous avons dit que nous sommes en guerre contre la chair avec ses désirs et ses passions. Mais si ce combat est mené avec les armes spirituelles, nous allons voir cela, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Alors, nous devenons vainqueurs et nous confirmons la parole de Dieu, selon laquelle ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ceux qui sont en Christ. Je crois, chers frères et sœurs, que la mort à la croix nous apporte cette force. La puissance de la croix, c'est qu'effectivement, en recevant Jésus dans nos cœurs, il apporte un changement, une transformation. L'apôtre dit autre chose. Il ajoute, « Nous ne luttons pas uniquement contre la chair et le sang, mais aussi contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » S'il est vrai que nous avons des combats contre la chair, eh bien, ignorer l'existence de ce combat spirituel contre les puissances mauvaises, ça serait faire preuve de manque de maturité spirituelle. Satan existe, les démons existent, mais ils sont vaincus. Amen. Je ne suis pas là pour faire l'éloge de Satan et de ses démons. C'est simplement dire qu'ils existent. Si le diable a attaqué le Seigneur Jésus, eh bien, il nous attaquera. Mais il a vaincu. Et sa victoire est la nôtre. C'est ça que je voudrais mettre en évidence. Nous n'allons pas trembler parce qu'il y a des mauvais esprits. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous allons nous garder d'entrer sur le chemin des esprits méchants et mauvais. Nous sommes appelés à tenir ferme pendant la bataille et nous revêtir les armes spirituelles afin de nous défendre contre Satan et ses démons. Que cherche-t-il? Eh bien, il cherche à nous faire douter de l'amour de Dieu. Douter de l'amour de Dieu. Ne pas se sentir aimé. Dieu nous aime. Amen. Amen. Dieu nous aime et il l'a manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Oui, le diable et les démons chercheront aussi à semer la confusion dans notre esprit par des faux enseignements résultant d'une fausse doctrine. Il y a des enseignements partout aujourd'hui Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église parce qu'ils suivent sur la télévision ou sont sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Mais faut-il avoir aussi un esprit, l'esprit de Dieu pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? L'adversaire de nos âmes cherchera à entraver notre service pour Dieu. Au lieu de servir Dieu, nous allons chercher à servir nos intérêts. Ou alors nous allons servir Dieu par la chair, ce qui est différent de servir Dieu par l'esprit. Parfois, on est amené à vivre dans l'hypocrisie, tout en étant chrétien. Et ça, ça plaît beaucoup à l'adversaire, de vivre dans l'hypocrisie, à devenir mondain sous couvert d'une religion, ou alors à causer des divisions. Ça, c'est le domaine de l'adversaire. Mais, ceci étant dit, je reviens sur la partie principale, Élisée, le prophète. Lui, et je pense, nous allons le voir, il était en communion avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Il recevait la parole de Dieu, la pensée de Dieu, pour enseigner le peuple de Dieu. Et dans le contexte, il nous est dit que Élisée dévoilait tous les plans militaires conçus dans le secret par le roi de Syrie. Et quel était l'objectif de ce roi? Eh bien, c'était attaquer le peuple de Dieu pour le rendre esclave. Il avertissait, il dévoilait, mais il avertissait le roi. Il avertissait le roi dans le but de déjouer les plans de l'ennemi. Chers frères et sœurs, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de chacun d'entre nous. Si nous sommes chrétiens et si nous aimons le Seigneur et si nous avons cette communion intime avec le Seigneur, alors le Seigneur va nous révéler les choses déjà nous concernant puisque nous avons un combat pour rester dans la vie de l'esprit, à aimer le Seigneur, à aimer le servir. Déjà, c'est un combat. Mais nous avons aussi une mission, c'est aussi soutenir l'Église. Et nous recevrons la pensée de Dieu pour avertir nos frères dans l'amour, pour les encourager. Nous avons ici, dans la parole de Dieu, l'exemple de Pierre, de Paul, de Silas, qui ont été jetés en prison, mais dans le cadre de Pierre. La Bible nous dit que l'Église est priée, intercéder, et dans sa grâce, Pierre a été libéré. Il ne faut pas négliger le rôle de la prière, de l'intercession, le rôle de l'Église. N'oubliez pas aussi que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous avons eu l'occasion de partager, mais elles sont puissantes. Quelles sont ces armes? Éphésiens chapitre 6. La première arme, c'est la vérité. Ayez la vérité pour ceinture. Dans un monde de mensonges, comment faire la différence? C'est en vivant dans la vérité. C'est porter cette vérité. Si la vérité est Christ, eh bien, la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et il y aura toujours combat entre Christ et le diable. Le mensonge et la vérité. La vérité se trouve en Christ. Et ceux qui sont en Christ doivent vivre selon la vérité dans un monde de confusion et de mensonges. Il nous est demandé aussi de porter la cuirasse de la justice ou la sainteté. C'est toujours le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le monde est souillé. Dans les souillures, quand l'adversaire cherche à nous souiller, eh bien, c'est cette cuirasse qui nous protège. Nous ne sommes pas appelés à reproduire ou à produire les injustices que nous voyons dans le monde. Mais nous, étant justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être les disciples de la justice. Et à être zélés, à porter les chaussures de la paix. Parce que nous avons fait la paix avec Dieu, Parce que nous sommes des hommes et des femmes de paix dans un monde de violence. C'est bien de dire que Nantes progresse et que cette sixième ville de France peut-être va dépasser, mais elle est grandie aussi avec la violence. La violence, c'est à la porte de nos maisons. Quel est le rôle de l'Église ? C'est d'abord nous de bannir la violence dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actes, mais aussi d'agir selon la paix. Quand les gens du monde se réunissent pour, dans les gouvernements pour chercher la paix, nous savons qu'il sera difficile de trouver la paix. Mais nous sommes appelés à prier pour ceux qui nous gouvernent, pour que la paix. Mais pas seulement, pas seulement prier, mais vivre cela autour de nous, parce que nous sommes déjà citoyens. L'apôtre nous dit aussi de porter le bouclier de la foi, cette confiance fondamentale et persévérante dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les promesses de Dieu, et nous sommes appelés à croire à la parole de Dieu, à serrer les promesses dans nos cœurs, dans un but. Eh bien, c'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui nous protège contre les traits enflammés du malin. Et ces traits existent. Paul continue en disant, portez le casque du salut. La science que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Et comme nous sommes sauvés par grâce, alors nous n'allons pas mettre devant nous les œuvres, les mérites, mais nous allons croire que celui qui nous a sauvés par grâce, eh bien, il va nous accorder aussi la victoire. Amen. Il nous a sauvés par grâce et il se propose de nous accompagner. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner la main d'association pour qu'il nous accompagne dans un monde de ténèbres, dans un monde de violence, pour que nous puissions être victorieux? Il y a aussi l'épée de l'esprit ou la vérité des Écritures. L'épée de l'esprit, qui est une arme offensive et défensive. Elle est tranche. Elle nous aide à plonger nos regards. C'est un miroir qui nous éclaire, qui nous sommes. Mais tout en faisant une œuvre dans nos cœurs, elle nous donne la force de repousser et de contrecarrer les plans de l'ennemi. Élisée, c'est le symbole de cet homme qui avait ses armes. Non seulement il était en communion avec le Seigneur, mais il était stable. Il était lucide. Il voyait l'armée de Syrie. Mais son serviteur, lui, Élisée voyait l'armée du ciel aussi. Mais son serviteur, et je pense que nous ressemblons beaucoup plus à son serviteur qu'à Élisée. Nous pouvons affirmer, même témoigner que nous sommes en Christ, que Christ est avec nous. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes éclairés en toutes choses. Le serviteur d'Élisée, il a vu les chars, il a vu les chevaux, il a vu ces troupes qui enveloppaient la ville, mais sa vision s'arrêtait. On dirait que le ciel était fermé pour lui. Et c'est ça qui engendrait la peur, une panique, une peur incontrôlable. Toute la ville était encerclée par l'armée terrestre. Il ne voyait pas. Alors, je ne sais pas si vous aimeriez être à l'époque d'Élisée, mais nous avons plus grand qu'Élisée. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Pourquoi certains événements nous troublent et occasionnent une peur mortelle chez nous? Qu'est-ce qui peut causer un aveuglement pareil? Je vous propose trois réflexions. Premièrement, l'incrédulité source d'aveuglement. L'incrédulité source d'aveuglement. Et je vous recommande de lire attentivement Luc chapitre 24. Et nous avons ici les deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs et qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Jésus est mort. Donc pendant 3 ans, ils ont accompagné le Seigneur Jésus. Ils ont entendu l'évangile. Ils ont vu les miracles, les prodiges. Mais il y a quelque chose ou plusieurs choses dans leur vie. C'est que ces disciples vont dire, ben, nous espérions que ce soit lui qui viendra raser les Romains pour établir un État d'Israël. Mais Jésus n'était pas venu pour mettre en place un État terrestre. Ce n'était pas sa mission. Deuxièmement, les prophètes, les écrits, en particulier Ésaïe, annonçaient la venue de Jésus. Ils n'ont pas su comprendre les Écritures. C'est un aveuglement. La troisième chose qui m'étonne chez eux, c'est que, et même ils vont témoigner, ils vont dire, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre et n'a pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, ils n'ont même pas cru au message des anges. Et ils vont continuer à parler de leur incrédulité. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ben, avouons que c'est une incrédulité notoire. Et c'est ce que Jésus va reprocher aux disciples. Et ça, l'incrédulité, c'est un péché. Il va dire aux hommes sans intelligence, ça, ce sont les paroles de Jésus, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà. Aux hommes sans intelligence. Être à l'école de Dieu, si on faisait des comparaisons, vaut mieux qu'être dans toutes les écoles de ce monde. Être à l'école de Dieu. Et on ne passe pas un concours pour entrer dans cette école. Tout le monde peut y aller. Nous sommes tous reçus dans cette école. Pas de distinction. Nous sommes tous au même niveau. Au même niveau. Parce que les choses d'en haut, eh bien, je vais peut-être confondre, ne pas être d'accord avec certains théologiens au milieu de nous. Eh bien, dans cette école, on reçoit les choses par révélation. Et le Seigneur les donne à ceux qui sont intimement en communion avec lui. C'est le cas d'Élisée, comme d'autres. C'est le cas d'Élisée. Cela n'empêche, et je me rattrape, cela n'empêche pas d'étudier, mais d'étudier en laissant l'Esprit de Dieu nous éclairer sur les choses. Dieu les reproche d'être incrédule, de ne pas croire à la parole de Dieu et de ne pas croire au témoignage. Si nous, chers frères et sœurs, nous ne croyons pas à la parole de Dieu, si nous ne croyons pas au témoignage de ce qui est écrit, eh bien, les gens ne croiront pas à notre témoignage. Deuxième point, la tristesse, source d'insensibilité. Tristesse, source d'insensibilité. C'est toujours les mêmes personnes. Je reste dans Luc chapitre 24 avec les deux serviteurs sur le chemin d'Emmaüs. Eh bien, regardez, Jésus vient, il marche avec eux. Mais la Bible nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de reconnaître Jésus? Est-ce que nous sommes 24 heures sur 24 en communion avec lui? Et pourtant, il est avec nous, c'est écrit. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous à la maison. Je suis avec vous au travail. Je suis avec vous partout. Mais nous pouvons confesser qu'il y a des moments où, c'est-à-dire, est-ce que vraiment il est avec nous? Mais le penser, ce n'est pas mauvais. C'est tout simplement reconnaître notre humanité. Ça serait malheureux de supprimer. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des... Non. Mais simplement de reconnaître que nous avons besoin de lui. Et que lui, il est disponible à tout moment, à tout instant. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tristes. Ils étaient tristes parce qu'ils avaient placé toute leur confiance en lui. Et leur confiance était déçue parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Il nous arrive d'être attristés, d'être découragés, d'être abattus. Mais c'est justement dans ces moments, chers frères et sœurs, que nous devrions savoir qu'il est plus près de nous. Il est avec nous. Et pendant qu'il est parlé, il est parlé de quoi? Et c'est ça justement les choses d'en haut. C'est ça qui donne la foi. C'est ça qui ranime la flamme. Ils étaient attristés. Eh bien, le Seigneur Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Il a parlé de lui. Il a commencé à leur expliquer ce qui le concernait dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, les prophètes, les psaumes. Et pendant qu'il leur expliquait les Écritures, alors la foi a renaît. Amen. C'est ça l'importance de plonger nos regards. Et troisièmement, et c'est ce point qui est important aussi, c'est la menace de mort, source de désespoir. Menace de mort, source de désespoir. Marc 4, 35. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessant et eut un grand calme. Ils étaient dans la bonne direction. Parce que c'est Jésus qui leur a dit de prendre la barque. C'est Jésus qui leur a dit de prendre la direction. Et en plus, il était avec eux. Il était avec eux. Et bien sûr, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus était avec eux. Il y ait la tempête, il y ait le vent qui va menacer la barque. Je ne sais pas si votre bateau est dans les eaux calmes ou les eaux troublées. Si vous vivez la tempête ou le repos. Mais ce que je sais, c'est justement que ces disciples, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils avaient besoin de comprendre. Comme les deux disciples, c'est que celui qui était là, à côté d'eux, ce n'était pas un simple homme, c'était Dieu. Amen. C'était Dieu. Et je souligne cet aspect parce que des fois, nous-mêmes chrétiens, nous considérons que Jésus, c'est un homme. Non, Jésus, c'est Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Il n'avait pas en dormant laissé sa vie entre les mains des experts. Sa vie, c'était entre les mains du Seigneur, du Père. Et il contrôlait tout. Et il va se lever, il va menacer, il va dire... Homme de paix de foi. Oui, je l'ai dit au premier culte parce que je le crois. C'est souvent on a peur de la mort et on n'a pas réglé cette histoire-là, la mort. On n'a pas réglé cette histoire. On a peur, même les chrétiens ont peur d'aborder pas seulement intellectuellement la mort. Il y a des bouquins qui sont écrits sur la mort, même des livres chrétiens. Et on a peur de la mort. Nous tous, nous aimerions vivre jusqu'à au moins à 100 ans, parce qu'on peut dire, bon, alors je peux partir maintenant. À 100 ans, je peux partir. Mais personne ne sait quand il va partir. Ah non, on ne sait pas. Mais nous pouvons savoir comment nous allons partir. Et c'est ça le plus intéressant. C'est ça le plus intéressant. C'est que nous ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Christ, il est mort bien plus, il est ressuscité. Il est parti nous préparer une place et il reviendra nous prendre. Que ce soit l'enlèvement de l'Église, que ce soit l'enlèvement de l'Église ou qui vient chercher un de nous, quand et comment, je n'en sais rien. Eh bien, oui, humainement, nous allons pleurer, mais spirituellement, nous allons nous réjouir parce qu'il a rejoint la patrie céleste. Et c'est notre destinée, qu'on le veuille ou non, c'est notre destinée. En attendant ce moment-là, préparons-nous. Chacun doit se préparer, car on ne sait pas ni l'heure. Et on vit bien quand on a réglé ce problème-là. On vit bien quand on a réglé ce problème-là. Et je termine en vous laissant l'attitude adéquate. Deux citations. Le premier, c'est Moïse. Alors qu'ils étaient menacés face à la mer Rouge et l'armée égyptienne, Moïse va dire cette parole inspirée. « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et Élisée va dire « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Aujourd'hui, si nous disons, ils vont dire, ces gens-là, ils sont détraqués. Ils voient des montagnes de chevaux pleins de feu. Essayez de le dire à quelqu'un qui n'est pas converti. Il va dire, mon gars, il faut que tu ailles à l'hôpital. Hein. Mais oui. Mais c'est une réalité, parce que la Bible dit que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et dans la Bible, les anges sont pas ils ne servent pas Dieu, ce sont des serviteurs, des hommes, des femmes, vous et moi. Dieu les a mis à notre service. Et je suis étonné par le comportement du roi. Quand il a vu cela, eh bien, il a demandé à Élisée, est-ce que je les tue? Il dit, quoi? Tu veux tuer? Il dit, non, donne-les à manger. Qu'est-ce que vous faites par rapport à vos ennemis? Vous les tuez ou vous les donnez à manger? Nos ennemis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui nous contestent, ceux qui ne veulent pas de Jésus et qui sont violents, comment? On prie pour que le feu tombe du ciel et rase, ou l'air où nous avons quelque chose à leur donner. Le paix. Du pain et de l'eau. Donne-les à manger. C'est à l'Église de les nourrir, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons parce que c'est une grâce de te connaître, aussi un privilège de te faire connaître. Merci de bénir chacun d'entre nous, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs dans le nom de Jésus, de nous aider les uns les autres, Seigneur, à croire que tu es vivant, Seigneur, que tu es avec nous, que tu campes, Seigneur, avec nous et que tu es à nos côtés. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, que celui ou celle qui traverse et des situations difficiles, sois encouragé parce que tu es avec lui, avec elle, et tu vas l'aider à surmonter l'épreuve. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus. Amen.